Bonjour, chers fidèles auditeurs de la Voix de l'Amérique. Bienvenue dans ce bulletin. Je suis Nanit Talani. Il est 5 heures à Washington, 10 heures à Kamakwe et Kukuna en Sierra Leone. En Tanzanie, la contestation grandit tandis que le nombre des morts augmente officiellement en raison de pneumonie. Alors que depuis plus de 6 mois, les autorités tanzaniennes tentent de convaincre le monde qu'elle était, grâce aux prières, libérée du coronavirus. Le coronavirus tue des gens et nous voyons passer beaucoup de cas, mais nous ne pouvons pas en parler en raison de la situation, témoigne à Dar es Salaam, un médecin de l'hôpital public ayant, comme beaucoup, requis l'anonymat par peur de représailles. Le pays, dont le président John Magufuli a dès le départ minimisé la dangerosité du virus quand ses voisins se barricadaient, n'observe aucune mesure destinée à limiter la pandémie. La semaine dernière, John Nkesangong, le directeur de l'Africa CDC, a espéré que la Tanzanie revoie rapidement sa position sur le coronavirus. C'est un virus dangereux, un virus qui se propage très rapidement et un virus qui ne connaît pas les frontières et ne sait pas si vous êtes ou non en Tanzanie, avait-il déclaré. Une alliance regroupant les différents candidats de l'opposition en Somalie juge illégitime le président Mohamed Abdoulani Mohamed, surnommé Farmajo, dont le mandat a officiellement expiré hier sans que son pays ne parvienne à organiser des élections. Le 17 septembre, le président Farmajo avait trouvé un accord avec 5 leaders régionaux et le maire de Mogadiscio pour tenir des élections avant la fin de son mandat. Ce pacte abandonnait la promesse du « un homme, une voix », un objectif ambitieux que la Somalie s'était initialement fixé pour tenir ses premières élections entièrement démocratiques depuis 1969, mais qui a achoppé sur de multiples désaccords politiques et problèmes sécuritaires. À la place, le pays est censé organiser des élections indirectes en révisitant son système complexe où des délégués spéciaux élisent les parlementaires qui votent ensuite pour le président. Mais ce processus a également débouché sur une impasse dont les leaders régionaux et le président se rejettent la faute. Toujours en Somalie, 8 soldats, dont un haut responsable militaire du renseignement, ont été tués dimanche dans l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule. Une explosion revendiquée par les islamistes radicaux Shebab. Un accord a été conclu entre le gouvernement éthiopien et le Programme alimentaire mondial pour accroître l'accès humanitaire à la région du Tigré dans le nord du pays. Cette annonce intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a indiqué mercredi, lors d'une réunion à huis clos, espérer davantage d'accès humanitaire à la région où le gouvernement fédéral mène depuis novembre une opération militaire contre les autorités dissidentes. En République démocratique du Congo, des islamistes présumés ont attaqué un village de l'Est. Ils ont tué 10 habitants à la machette et en ont enlevé plusieurs autres. L'attaque s'est produite vendredi soir dans le village de Maboulé, à environ 25 km au sud-est de Béni. On ignore qui sont les auteurs de cette attaque attribuée par les autorités au ADF, un groupe originaire de l'Ouganda actif depuis les années 90 dans l'est de la RDC. En Algérie, le parquet général auprès de la Cour d'Alger a ordonné l'ouverture d'une enquête après le témoignage d'un étudiant algérien, Walid Kenis, qui affirme avoir été torturé par des membres de services de sécurité. Lors de son procès le 1er février, Walid, de 25 ans, resté plus d'un an en détention, a dit avoir été agressé sexuellement, physiquement et verbalement par des éléments des services de sécurité pendant une garde à vue. L'ouverture de l'enquête fait suite aux réactions et commentaires des médias qui ont été provoqués par les déclarations du jeune étudiant. Hors de l'Afrique, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est présenté aujourd'hui au tribunal à Jérusalem pour répondre aux accusations de corruption qui pèsent sur lui. Ici aux États-Unis, Donald Trump se retrouve à nouveau demain mardi en position d'accusé au Sénat, dont les élus devront dire si l'ex-président des États-Unis a encouragé l'assaut meurtrier sur le Capitole dans les derniers jours de son mandat. À plusieurs titres, ce nouveau procès entrera lui aussi dans l'histoire, car jamais auparavant, un président n'avait été mis en accusation à 2 reprises et jamais non plus un président n'avait été jugé après avoir quitté le pouvoir. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, de retour de Moscou, s'est déclaré très inquiet du refus des autorités russes d'engager un dialogue plus